Kairoua, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde. Aujourd'hui, édition du lundi 9 octobre 2017, en direct de Washington, Idrissa Seloudia et Jean-Roger Bion. Pour commencer, les titres.
En République démocratique du Congo, combat intense hier entre forces gouvernementales et les ADF dans le territoire de Béni.
En République centrafricaine, la MINUSCA mène une opération militaire de grande envergure à Bokaranga.
Au Nigeria, plus de 2300 membres présumés de Boko Haram devant la justice à partir d'aujourd'hui.
Le président Trump pose des conditions en accord avec les démocrates sur le sort des Dreamers, ces migrants arrivés en bas âge illégalement aux États-Unis en compagnie de leurs parents.
Et ne manque pas notre page sport ainsi que la Minute Écho.
Pour l'instant, le journal.
D'intenses combats ont opposé dimanche l'armée de la République démocratique du Congo à l'une des milices les plus actives dans l'est du pays, accusée par les autorités d'être à l'origine de la disparition samedi d'une vingtaine de civils, selon des sources militaires et civiles. Les combats opposent les forces armées de la RDC, les FRDC, aux forces démocratiques alliées, les ADF, dans le territoire de Béni, au nord Kivu, a indiqué l'un des porte-parole de l'armée dans la région de Goma. Notre correspondant Charlie Kasereka fait le point.
En effet, le samedi dernier, vers la fin de l'avant-midi, ces islamistes des ADF ont intercepté au total 9 motocyclettes, à bord desquelles se trouvaient des passagers et d'autres passants qui se dirigeaient vers la ville de Béni. La société civile sur place parle d'au moins 32 personnes qui ont été prises en otage, 7 femmes ont été relâchées par ces rebelles et 3 hommes ont réussi à s'échapper. Et pour l'instant, on ignore le sort des 22 otages restés entre les mains de ces rebelles qui ont exécuté sur place 3 personnes en vain descendier toutes les 9 motocyclettes devant leur femme rescapée qui s'est confiée à l'organisation de la société civile sur place à Béni, CEPADO en sigle. L'un des porte-parole de l'armée dans la région de Béni a indiqué que pour l'instant, la route Béni-Kamango reste bloquée jusqu'à nouvel ordre. Signalons aussi que depuis plusieurs semaines maintenant, les forces armées de la République démocratique du Congo ont intensifié des attaques contre les multiples rébellions des Maïmaï dans cette partie du nord de la province. Charlie Kasereka depuis Goma pour VOA Afrique.
La force onusienne en Centrafrique, la MINUSCA, mène une opération militaire de grande envergure à Bokaranga. Elle tente de chasser de cette ville du nord-ouest un groupe armé local baptisé 3R. Eric Manirakiza.
La MINUSCA a engagé des moyens importants, y compris des hélicoptères. Cette opération a été lancée depuis samedi matin. Elle est destinée à expulser les éléments d'une groupe armée 3R de la ville et y rétablir la sécurité. Dans un communiqué, la force de l'ONU indique que les objectifs initiaux de l'opération ont été atteints. L'effort en cours vise à sécuriser la ville et ses environs afin d'empêcher le retour à Bokaranga des 3R et d'autres éléments et groupes armés, y compris des anti-Balaka. Cette action vise à assurer également la protection de la population civile. Une partie a trouvé refuge autour de sa base, sous la garde vigilante des casquets bleus. Le conseiller spécial des Nations Unies pour la prévention du génocide, Adama Dieng, en visite dans le pays, s'est dit profondément préoccupé par la nouvelle flambée de violence. Bokaranga a été le théâtre de récentes violences. L'opération de la MINUSCA devra également toucher la localité de Bang, dans le nord-ouest. Les groupes armés s'affrontent pour le contrôle des ressources naturelles comme les diamants, l'or, le bétail, et dans d'intenses luttes politiques pour accéder aux maigres ressources du pouvoir.
Au Nigeria, plus de 2300 membres présumés de Boko Haram détenus dans des camps militaires comparaissent devant la justice à partir d'aujourd'hui. Ces procès vont se tenir dans le plus grand secret et soulèvent déjà le plus grand scepticisme sur la transparence du système judiciaire nigérien. Aloïse Bigirimana.
La justice va d'abord juger quelques 1670 personnes détenues dans un centre militaire de Kayinji. Les dossiers de 651 prévenus du camp Giwa à Maïdougouri, capitale du Borno et épicentre du conflit, suivront de près. La plupart sont détenus depuis des années dans le secret, sans avoir vu ni avocat ni juge. D'après Matthew Page, ancien spécialiste du Nigeria au département d'État américain, il s'agit du premier procès significatif de suspects de Boko Haram. Les chiffres officiels indiquent que seules 13 personnes ont été jugées et 9 condamnées pour leur lien avec l'insurrection djihadiste. Les audiences auront lieu à huis clos, au sein même des centres de détention militaire. Un avocat nigérien a estimé que cette mise à écart des médias envoie un mauvais signal d'une justice non rendue ou de compromission. Amnesty International avait alerté en juin 2015 sur les conditions de détention horribles des centres militaires. Cette ONG disait que 7000 personnes seraient mortes de faim, d'étouffement ou de torture depuis 2011.
Au Ghana, des explosions dans des stations-service d'Accra ont fait 7 morts et 132 personnes blessées, dont 68 reçoivent toujours des soins. Le gouvernement a promis d'agir pour améliorer la sécurité de ces installations. Michel Joseph.
Un incendie s'est déclenché dans la nuit de samedi à dimanche à bord d'un camion transportant du gaz naturel dans le quartier de Legon à Accra. Le feu s'est ensuite propagé à 2 stations-service proches et a entraîné des explosions en série. Pris de panique, de nombreux riverains du quartier ont fui leur domicile. Cette catastrophe a provoqué une vague de réactions. Les Ghanéens ont exprimé leur colère sur les réseaux sociaux, critiquant la dangerosité des stations-service. La plupart sont situées près d'écoles, d'hôpitaux et de commerces. Une pétition en ligne adressée au président Nana Akufo-Addo exige une réglementation plus stricte et des inspections des installations. Le président ghanéen a aussitôt annoncé qu'un conseil des ministres se tiendrait jeudi pour aboutir à un programme exhaustif destiné à éviter de nouveaux accidents. En juin 2015, un incendie similaire et une explosion dans une station-service avaient fait plus de 150 morts.
Le président du Soudan, Omar el-Béchi, a prolongé dimanche de 2 mois un cessez-le-feu unilatéral décrété dans les États en conflit du Darfour, du Nil Bleu, du Kordofan Sud. Cette décision intervient 2 jours après l'annonce de Washington d'élever son embargo vieux de 20 ans contre le Soudan. Le président soudanais a prolongé la trêve pour montrer que le gouvernement est soucieux d'instaurer paix et stabilité au Soudan, a indiqué l'agence officielle SUNA.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump a dit clairement hier que pour un accord avec les démocrates permettant aux Dreamers de rester dans le pays, il insistera sur une réforme du système des cartes vertes, le recrutement de 2000 nouveaux agents de l'immigration et la construction du mur le long de la frontière avec le Mexique. Les Dreamers sont des migrants arrivés illégalement en bas âge dans le pays en compagnie de leurs parents. C'est le mois dernier que M. Trump avait annoncé ses plans pour la fin du DACA, le programme mis en place par son prédécesseur Barack Obama pour empêcher l'expulsion de ces centaines de milliers de Dreamers. Parmi ses autres priorités, le président Trump veut limiter les cartes vertes liées à la famille, aux épouses et aux enfants mineurs de citoyens américains ou de résidents permanents légaux. Il veut aussi que ce soit basé sur un système de points. Les démocrates sont farouchement opposés à beaucoup de ces exigences.
Les États-Unis ont temporairement arrêté tous les services de visa pour les non-immigrants dans tous les bureaux diplomatiques américains en Turquie, selon l'ambassade américaine à Ankara. Elle dit dans un communiqué que des événements récents ont forcé le gouvernement des États-Unis à réévaluer l'engagement de la Turquie à l'égard de la sécurité des services et du personnel des missions diplomatiques américaines.
Des centaines de milliers d'Espagnols, de Catalogne d'ailleurs, sont descendus hier dans la rue à Barcelone pour manifester contre l'indépendance de la région. Le référendum d'autodétermination interdit, organisé le 1er octobre, a déclenché en Espagne une crise politique sans précédent depuis 40 ans. De nouveau, Eric Manirakiza.
Du jamais vu en Espagne depuis la fin du régime de Franco en 1975. Vive la Catalogne, vive l'Espagne, scandait la foule qui brandissait des milliers de drapeaux espagnols, catalans ou européens, symbole d'un patriotisme décomplexé qui ne fait cependant pas l'unanimité. D'après une madrilène de 30 ans arborant un drapeau espagnol noué autour de la taille, l'indépendantisme catalan a réveillé la ferveur patriotique espagnole qui ne se limite pas seulement à la fierté d'être espagnol, mais à le montrer. De nombreux manifestants venaient d'autres régions d'Espagne. Le prix Nobel de littérature Mario Vargas Llosa a affirmé qu'aucune conjuration indépendantiste ne détruira la démocratie espagnole. Dans un tweet, le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy a apporté son soutien aux manifestants. Il a brandi la menace d'une suspension de l'autonomie de la Catalogne en vertu de l'article 155 de la Constitution. Cette crise effraie les milieux économiques. Une quinzaine de grandes entreprises catalanes ont déjà transféré leur siège social hors de la région. Le leader catalan Carles Puigdemont a sollicité une médiation internationale, mais Mariano Rajoy refuse de dialoguer tant que les séparatistes n'auront pas retiré leur menace de rupture.
La Minute Éco, Nathalie Barge.
L'autorité de régulation des télécommunications du Niger a infligé plus de 3,5 milliards de francs CFA d'amende aux quatre compagnies de télécom actives dans le pays pour ne pas avoir amélioré la qualité de leurs services. Celtel Niger a été condamné à la plus lourde amende pour défaut d'améliorer la qualité vocale dans les grandes villes. Les autres compagnies sont Orange Niger, Cellcom et Move Niger. Le taux de pénétration de l'Internet au Niger est de 19%. L'Espagne et la Côte d'Ivoire ont signé à Abidjan un accord de conversion de la dette ivoirienne en projet de développement pour plus de 67 milliards de francs CFA. Les investissements se feront principalement dans les secteurs de l'énergie et de l'eau, a précisé le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Les relations économiques entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne se sont accrues de 84% ces cinq dernières années. Au premier semestre 2017, la dette publique du Cameroun a franchi la barre de 30% du PIB, se situant désormais à 5 464 milliards de francs CFA, selon la Caisse autonome d'amortissement, l'organisme en charge du suivi de l'endettement public.
À présent, les sports avec Élisée Onkwati. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Éliminatoire du Mondial 2018 en Afrique, deux pays se sont qualifiés à l'issue de la cinquième journée. Il s'agit de l'Égypte et du Nigeria.
Les pharaons vainqueurs des Diables Rouges du Congo 2-1, doublé de Mohamed Salah, profitent du match nul de l'Ouganda face au Ghana pour valider leur troisième participation à une phase finale de Coupe du Monde. Après 1934 et 1990, les Super Eagles, de leur côté, ont fait le nécessaire. Fitois 1-0 devant la Zambie grâce à un but du joueur d'Arsenal Alex Iwobi. Ce sera la sixième Coupe du Monde pour le Nigeria, la troisième consécutive après 2010 et 2014. À noter dans ce groupe C, la victoire anecdotique du Cameroun 2-0 contre l'Algérie.
De leur côté, la Tunisie et le Sénégal y sont presque.
Oui, et il ne manque plus qu'un point aux Aigles de Carthage pour se rendre en Russie. Ils ont dominé la Guinée 4-1, un triplé de Youssef Moussakni. À un match de la fin, la Tunisie conserve donc 3 points d'avance sur la RD Congo, qui est allée dominer la Libye 2-1. Dans la poule D, le Sénégal vainqueur 2-0 au Cap-Vert grâce à Diafra Sakho et Cheikh Ndoye prend la tête du groupe avec 2 points d'avance sur le Burkina Faso et un match en retard à jouer contre l'Afrique du Sud qui justement a su classer les étalons 3-1. Grosse désillusion donc pour les Burkinabés qui voient la qualification leur échapper. Ils étaient pourtant leaders avant cette journée.
Le groupe C connaîtra également sont qualifiés lors de la dernière journée et ça va se jouer entre le Maroc et la Côte d'Ivoire.
Effectivement Idrissa, c'est toujours aussi indécis après le succès du Maroc contre le Gabon 3-0 grâce à un triplé de Khalid Boutaïd. Les Panthères sont éliminés mais les Lions de l'Atlas prennent la tête avec un point d'avance sur la Côte d'Ivoire. Il y aura donc une finale entre le Maroc et les éléphants à Abidjan lors de la dernière journée.
D'un mondial à un autre, celui des moins de 17 ans, et le Niger a bien débuté la compétition.
Oui, ça se passe en Inde et le MENA Kadé a dominé la Corée du Nord 1-0, la toute première victoire nigérienne dans un mondial toutes catégories confondues. En revanche, défaite de la Guinée 3-1 contre l'Iran dans ce groupe C. Deuxième journée aujourd'hui pour les deux autres représentants africains. Le Ghana, déjà vainqueur 1-0 de la Colombie lors de sa première sortie, affronte ce matin les États-Unis. Par contre, le Mali, défait 2-3 par le Paraguay, doit se reprendre un peu plus tard face à la Turquie.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, certaines organisations de la société civile et des associations des jeunes ne sont pas d'accord avec les propos du secrétaire général des Nations Unies, selon lesquels presque aucun progrès n'a été réalisé dans l'application de l'accord de paix et de réconciliation au Mali. Des activités ont été organisées dans le pays pour réfuter ces conclusions de l'ONU, nous dit notre correspondant Kassim Traoré.
La publication du rapport du secrétaire général des Nations Unies a suscité beaucoup de débats au Mali, car le pays entre dans une période électorale intense, s'achevant avec une présidentielle en 2018. Mamadou Saleh Anadif, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali.
Malgré ces développements positifs, nous devrons être conscients que les échéances de 2018 s'approchent à grands pas et que les défis restent énormes. Toutes les parties sont appelées à redoubler d'efforts pour consolider la confiance entre elles.
Le chef de la diplomatie malienne trouve qu'il y a eu plein d'actions dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali.
Grand fut l'étonnement du gouvernement du Mali face à cette affirmation qui, à première vue, donnait l'impression d'un immobilisme généralisé dans la mise en œuvre de l'accord. Malgré les efforts consentis par le Mali et par la communauté internationale, le gouvernement du Mali reconnaît certes les difficultés qui ont jalonné le processus de paix, mais estime que des progrès remarquables ont également été enregistrés dans la mise en œuvre de cet accord issu du processus d'Alger.
Certaines associations pensent que le rapport des Nations Unies sur le Mali ne reflète pas la réalité du terrain.
Je me nomme M. Koulibaly Babou, professeur de théorie et développement. Nous savons réellement souvent que les choses qui sont derrière ces accusations-là, parce qu'il n'y a pas de critères objectifs, on peut se poser la question, quels sont les critères sérieux qu'ils ont utilisés pour montrer réellement que le gouvernement malien n'a aucun fait pour la mise en œuvre des dispositions de l'accord, ce qui est très grave comme affirmation.
Les organisations de la société civile sont étonnées par les rapports de l'ONU qui, selon eux, accusent le Mali en oubliant les autres acteurs du processus.
Je m'appelle Dr Lamine Sandi, je suis enseignant-chercheur. Vous ne pouvez pas prétendre nous accompagner et ne pas observer la neutralité. Le Mali n'est que pratiquement le maillon faible de tout le processus. Donc l'État n'a pas les moyens de pouvoir faire progresser ce processus. Pour qu'il y ait cantonnement, pour qu'il y ait désarmement, il faut que les forces internationales soient présentes, il faut qu'elles observent toute la neutralité requise, ok? Il faut aussi reconnaître que l'État malien aussi est un grand acteur dans ce processus, mais l'État malien est ignoré.
Certains jeunes qui étaient dans les rues de Bamako contre le projet de révision constitutionnelle trouvent que c'est le sursis de ce projet qui est à la base du mécontentement des Nations Unies.
Kekor Keta, je suis un jeune diplômé sans emploi. Si c'est pour s'appuyer sur le référendum que l'ONU dit qu'il n'y a eu aucune avancée par rapport à la situation au Mali, moi je pense qu'ils doivent tenir compte des réalités socio-culturelles du Mali. Parce que voter, faire le référendum sans tenir compte de ces réalités peuvent nous amener dans l'avenir à d'autres conflits.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Au Bénin, c'est en septembre 2011 que la fécondation in vitro est devenue une réalité dans le pays grâce à une initiative d'une clinique privée. Mais ce traitement n'est toujours pas à la portée de toutes les bourses. Reportage de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adondé.
Je n'ai pas d'enfant. Et d'hôpital en hôpital, mon médecin m'a dit, j'ai une solution pour toi.
Ce genre de refrain est commun à bien de femmes qui, même armées de la plus grande volonté, n'ont pas la chance de connaître les joies de la maternité. Frappées d'infertilité, elles sont la risée de la belle famille qui arrive pour la plupart du temps à convaincre les hommes à rechercher sous d'autres cieux des femmes pouvant leur assurer une descendance. Jusqu'à une certaine époque, la seule solution possible était les guérisseurs traditionnels. Mais depuis quelques années, un médecin réussit l'exploit et aide à la mise au monde des trois premiers bébés éprouvettes. Un événement qui lance au Bénin la fécondation in vitro. Le docteur Sodiedo encore aujourd'hui reste sous le charme de cette réussite inattendue.
Quand vous ouvrez un centre de FIV, vous avez des grossesses que vous n'aboutissez pas au bébé. C'est toute une inquiétude qui est installée. Je dois avouer que nous sommes quand même très comblés pour avoir eu trois filles à la fois.
Mais ce n'est pas pour autant que l'engouement se fait au niveau de la clinique. Mis à part le coût élevé que nécessite le processus, plusieurs couples doutent de l'efficacité de l'expertise béninoise en matière de fécondation in vitro et préfèrent expérimenter le marché sous-régional avec tout ce que cela implique en termes de dépenses. Awa, par exemple, y a englouti toute son économie et celle de son époux.
En partant, c'était difficile pour moi. J'ai mis 500 000 en poche, mon mari aussi 500 000 en poche. On a fait 3 jours, l'argent est fini, on est revenu. Après ça, on est parti 2 ou 3 fois. Avec les mêmes montants, 1 million, 1 million, on part et ça a marché. Mais avant ça, il faut payer une grosse somme, 7 millions. Avant de partir, j'avais vendu tous mes biens.
Le secteur public voudrait bien se doter d'un tel centre d'aide médicale à la procréation en vue d'amoindrir les dépenses. Cela permettrait au moins aux familles non fortunées d'avoir accès à la fécondation in vitro. Mais le projet titube en l'absence d'une volonté politique pour l'accompagner. Le professeur Justin Denapo, l'un des spécialistes ayant travaillé sur le projet, expose ici sa déception.
Ça nous fend le cœur, ça nous fait mal. On a de la compétence. Le bâtiment a été réhabilité par l'État béninois et on peine à réunir 355 millions pour pouvoir l'équiper. Nous, ce qu'on envisage dans le projet, c'est de ramener le coût à 500 000. Et il faut bien comprendre, ce n'est pas une incitation à faire trop de bébés.
L'autre obstacle à l'épanouissement de la fécondation in vitro est la peur du candidatant. Beaucoup de femmes, par peur d'être montrées du doigt, préfèrent pleurer leur infertilité que de l'affronter aux yeux de la société. De Cotonou, Ginette Leadandi pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
En République démocratique du Congo, popularité grandissante des produits aphrodisiaques à Goma, capitale du Nord Kivu, d'autant que leurs prix sont très abordables selon notre correspondant sur place. Toutefois, des spécialistes mettent en garde contre leur consommation abusive. De Goma, Charlie Kasereka.
C'est devenu les produits faciles à trouver dans presque tous les kiosques et au quartier, les grands marchés, les carrefours et les longs des avenues. À la tombée de la soirée, ce sont des vendeurs ambulants qui circulent dans presque tous les coins où l'on va la bière à la recherche des potentiels clients et tout le monde a son choix, soit de les consommer naturels ou déjà traités.
Nous savons très bien que quand une femme est infidèle, la première cause, c'est d'abord le fait qu'elle n'arrive pas à être satisfaite par son mari. Et que donc, si on a un remède, et que sont ces stimulants, ces aphrodisiaques, et que nous, il faut le consommer pour satisfaire ta femme, pourquoi ne pas le faire? Nous le faisons tous.
J'ai au moins une certaine mesure d'équilibre lorsque je prends ces boissons, parce que je sais que si je prends beaucoup, j'aurai en moi des sentiments qui peuvent me pousser à aller prendre même une fille par force.
Certains vendeurs au marché central de Goma, comme le long des routes, estiment que les produits est de plus en plus recherchés pour leur efficacité.
Ces derniers temps, il y a de fortes demandes. Par exemple, ceci, c'est pour rétablir dans 14 jours la puissance sexuelle perdue. Avec ce commerce, je nourris très bien ma famille.
Des produits aux effets miracles, des consommateurs connaissent bien les conséquences, mais difficile d'abandonner. Question pour eux de rester toujours efficaces.
Au-delà d'aller à la pharmacie, nous avons des trucs un petit peu naturels.
Et moi, je me dis, si il faut qu'on y démarre, ça pourrait un jour décevoir.
Une habitude qui suscite des questionnements, le plus âgé pense que les gènes devraient rester naturels au lieu de se précipiter à une impuissance sexuelle dans les prochaines années, surtout pour leur vie de couple.
Personnellement, je n'ai jamais, mais je vois des gènes qu'ils utilisent. Ils se vantent et ils disent que grâce à ces produits, ils parviennent à satisfaire leurs besoins sexuels. Mais pour moi, c'est un produit à déconseiller.
Les sexologues à la clinique Kessimak de Goma, Dr Ndabo, pense que les jeunes jouent aujourd'hui avec le feu en utilisant ces aphrodisiaques pour maintenir très longtemps leur libido et les conséquences sont énormes.
Et donc il est aussi important de savoir que ces médicaments, on ne connaît pas ni leur posologie, qui s'entraîne le plus souvent la mort subite chez la personne pendant les rapports sexuels, l'hypertension par rapport aux maladies rénales, donc une génération serait totalement sacrifiée. C'est vraiment quelque chose qu'on doit décourager.
Ces plantes et racines, comme aussi le jus, réputées pour leur vertu aphrodisiaque, se font leur temps et restent très bien consommées par des adultes, des jeunes, comme aussi les adolescents. Charlie Kasereka, depuis Goma, pour VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique, à Goma, sur 96.2 FM.
Aller s'installer aux États-Unis grâce à une carte de résident permanent obtenue via la loterie américaine qui donne la carte verte, c'est un rêve pour de nombreux jeunes Camerounais, nous dit notre correspondant sur place. L'option attire mais divise aussi l'opinion. Malgré tout, l'engouement reste grand après l'ouverture des inscriptions gratuites en ligne pour la Green Card 2019, surtout en milieu universitaire où l'opération est une aubaine pour des jeunes très entreprenants. Reportage de notre correspondant Emmanuel Jules Ntap.
L'ouverture de la loterie pour la carte verte 2019 aux États-Unis a une nouvelle fois changé le vécu quotidien de César, un étudiant en master 2 biochimie à l'université de Yaoundé 1. En plein air, le jeune homme se fait plein les poches avec son ordinateur.
Je suis à ma troisième expérience.
Je suis en train de chercher de l'argent, évidemment.
J'ai aidé les gens à se faire inscrire à la loterie américaine.
J'associe à cela les demi-cadres photo.
Parle-t-il anglais?
Pratiquement, non.
Sont-ils informés des conditionnalités?
Naturellement. Le souci principal, c'est d'arriver aux États-Unis.
Ces services coûtent 1000 francs par personne inscrite. Dans cette zone universitaire, la loterie américaine inaugure toujours une période de vache grasse pour les tenanciers des cybercafés conventionnels. Franck est l'un d'eux.
Comme on a des fiches à remplir, le 3, mais avant 19h, on a eu un nombre exorbitant de personnes qui voulaient s'enregistrer avant l'inscription en elle-même.
Le rêve américain au bout de la chance attire surtout les jeunes Camerounais, sans oublier de nombreux sans-emploi, parfois aux abois.
Les conditions du Cameroun, proprement dit, ne sont pas favorables. Tu as un doctorat peut-être, mais tu n'as pas de travail.
C'est votre cas, madame?
Oui, bien sûr.
Je suis étudiant en marketing. Mon intérêt, c'est aller aux États-Unis, le pays des rêves.
C'est la 30e fois que vous participez à
la 3e fois.
Certes, la Green Card a déjà fait quelques heureux dans des familles camerounaises, mais l'initiative est loin d'être perçue par tous comme une panacée.
Moi, je ne vais pas jouer à la loterie américaine. Pourquoi faire? Pour être immigré, c'est un nom péjoratif. Si tu es paresseux ici, tu vas être paresseux là-bas.
Et les réalités qu'on puis ici peuvent être les mêmes qu'on va retrouver devant. Tant qu'on n'a pas épuisé toutes les ressources, on ne devrait pas baisser les bras.
Sur la page Facebook de l'ambassade des États-Unis à Yaoundé, le vice-consul Eric Elliott invite les candidats à la Green Card à la vigilance face aux arnaqueurs. Une mise en garde qui n'a tenu pas les vives appréhensions de Amélie James-Kobela, experte consultante en migration, vis-à-vis du phénomène d'immigration, qu'il soit régulier ou irrégulier.
C'est entre 3 millions et 7 millions pour partir. Il faut les sortir. Les gens vendent les terrains, ils vendent les sociétés, ils vendent les salons. Il faut envoyer un message à l'État. Les politiques doivent être réelles envers la jeunesse. Je n'ai jamais vu une campagne avec des affiches où on dit aux jeunes, allez à tel endroit, il y a de l'argent pour faire des projets. Le jeune au Cameroun doit maintenant savoir qu'on se préoccupe de sa cause. Mais que les jeunes bougent aussi, ils dorment trop. Ils vont sur Internet, ils veulent seulement partir.
Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-92. 4-0. Je répète, 225-5892-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Craig Burns. Merci à Jean-Roger Bion pour le suivi de l'actualité et Michel Joseph pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.